Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode 100% arcade de la grande époque, qui est aussi le dernier de la saison, toutes catégories confondues, et on commence avec du lourd Mystic Warriors de Konami. Le début des années 1990 fut une époque où Konami misait à fond la carte du beat'em up et du run and gun en arcade. Tortue Ninja, The Simpsons, Sunset Riders, Metamorphic Force ou Asterix sont autant de titres illustrant cette période. Parmi ces jeux figure Mystic Warriors. Ce soft, publié en février 1993, nous place dans un monde où l'entreprise Skull est omniprésente. En coulisses, celle-ci tente de dominer le monde grâce à ses troupes de ninjas démoniaques. Heureusement, 5 valeureux guerriers vont se mettre au travers de sa route. Le jeu démarre par l'enlèvement de l'un de nos guerriers mystiques. Il vous faudra alors partir à sa rescousse. La victime étant choisie aléatoirement, celle-ci a de fortes chances d'être différente d'une partie à l'autre. Mystic Warriors est un titre ultra classique dans ses mécaniques de jeu. Vous pourrez sauter, glisser et tirer des salves de shuriken dans 8 directions. Vous pourrez également changer de plan à la manière d'un shinobi. D'ailleurs, le titre ne cache pas ses inspirations, car beaucoup d'éléments rappelleront sans mal la saga Contra, tant dans le gameplay que dans le déroulement du jeu. Le cinéma fut également une grande source d'inspiration, tant la mise en scène tient une place prépondérante. Ainsi, la séquence de descente à ski, par exemple, ressemble à s'y méprendre à de nombreuses scènes tirées de la saga James Bond, notamment les films au service secret de Sa Majesté ou L'Espion qui m'aimait. De nombreux clins d'œil parsèment les 9 niveaux que comporte le jeu. Des stages variés, vous faisant passer de décors urbains à la montagne enneigée ou la jungle hostile, pour finir dans le QG de l'entreprise Skull. Jouable jusqu'à 4 joueurs, comme de nombreux titres Konami de l'époque, Mystic Warriors n'est certes pas le jeu le plus mémorable de l'éditeur, mais celui-ci possède une réalisation tout à fait correcte. Si les graphismes manquent parfois de finesse, les musiques rythmées au doux parfum de sonorités traditionnelles japonaises accompagnent parfaitement une action qui se veut ininterrompue. La jouabilité simple couplée à une maniabilité réactive permettent de rentrer immédiatement dans le bain. Le plus surprenant reste tout de même la difficulté peu élevée du soft. Les ennemis ne sont pas toujours prompts à tirer, ou du moins prennent bien leur temps pour cela. Quant aux boss, leurs patterns d'action sont facilement analysables, il est aussi aisé de mettre en place une stratégie pour s'en débarrasser assez facilement. Mystic Warriors reste donc un titre aussi sympathique qu'efficace, mais déconseillé à ceux qui recherchent avant tout du challenge. Pour ceux et celles qui connaissent Bubble Bobble, et je suis sûr qu'il y en a parmi vous, eh bien Rainbow Island en est tout simplement la suite. Nos héros ont retrouvé leur apparence humaine à la fin de Bubble Bobble, et ils ont aussi sauvé leurs petites amies. Ici, vous devrez sauver les habitants de 7 îles qui ont toutes disparu, et pour ce faire, vous devrez monter de niveau en niveau avant que l'eau ne monte. Le méchant du jeu est le terrible boss of the Dark Shadow. Pour évoluer dans tous ces niveaux, vous aurez le droit à une nouvelle technique. Après les bulles du premier opus, voici les arcs-en-ciel. Il faut au moins reconnaître ça. Ces jeux ne sont pas du tout violents, car nous sommes à des années-lumière d'un contrat par exemple. Le principe aussi est sympathique, car au lieu de progresser en mode horizontal, comme beaucoup d'autres jeux, là il vous faudra toujours monter dans les niveaux. Vous débuterez donc chaque niveau du bas, et vous aurez tout un tas d'ennemis tout mignons qui essaieront de vous mettre hors service. Au long de votre quête, dans ce magnifique monde coloré, vous aurez pour vous aider différents power-ups, tels que les chaussures qui rendent le héros plus rapide, la potion jaune qui augmentera la vitesse de création de vos arcs-en-ciel, et la rouge qui vous donnera un arc-en-ciel supplémentaire, mais vous ne pourrez pas aller au-delà de 3. Il y a aussi tout un tas d'autres bonus, mais je vous laisse le soin de les découvrir par vous-même. Graphiquement, le jeu est sympa. Les monstres sont mignons, les couleurs sont étincelantes, les sprites sont de très bonne taille et les boss sont quant à eux immenses. Les musiques sont dans l'esprit du jeu, très guirées. D'ailleurs, dans cette version arcade, les premières notes ressemblent beaucoup à la ballade Over the Rainbow, écrite par Harold Harrion en 1939 pour le film Le Magicien d'Oz. Les bruitages sont sommaires, mais je pense que l'ensemble se tient. La jouabilité est très précise et difficile à bien maîtriser lors des premières parties. Mais une fois que vous aurez pris en main le personnage, vous vous apercevrez que c'était un coup à prendre. Au niveau du gameplay, notons tout de même un sacré paquet de secrets à débloquer, tout comme dans Bubble Bobble, comme par exemple les îles et les salles secrètes, et même une fin cachée. A noter qu'il est aussi préférable de collectionner les diamants selon un ordre défini par les couleurs d'un arc-en-ciel. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. Comme vous pouvez vous en douter, ce soft est jouable à deux. Mais attention, à deux alternativement. Ce choix est en partie dû au défilement vertical du jeu, qui ne permet pas de jouer simultanément. En effet, sinon cela aurait été compliqué si l'un des joueurs se trouvait en bas et l'autre qui monte. Enfin, je vous passe les détails. Bien entendu, Rainbow Island est sorti sur plein de plateformes de l'époque, que ce soit sur micro-ordinateur tout comme sur console. A noter qu'une version extra du jeu est sortie en arcade peu de temps après, et il n'y a que l'ordre des niveaux et des boss qui change. La version Mega Drive et FM Town du jeu en sont justement tirées. 26 ans après sa sortie en arcade, le jeu vous scotchera que vous jouiez en mode solo ou à deux. Une valeur sûre, un jeu indémodable qui vous collera devant l'écran peu importe votre âge. Mignon et bien foutu à bien des égards, un hit que je vous conseille fortement. Tapper a été développé par Mervyn Glass et Associés, une compagnie fabriquant des jouets basée à Chicago, qui commença à s'intéresser aux jeux vidéo au début des années 80. Édité par Bally Midway en 1983, ce jeu d'arcade proposait aux joueurs de l'époque un concept unique et très novateur. En effet, ici, pas de vaisseau à exploser, ni de princesse à délivrer, Tapper vous met aux commandes d'un barman devant servir des chopes de bière à tous les clients avant que ces derniers deviennent assoiffés et qu'ils arrivent à se déplacer jusqu'au tonneau. Pour ce faire, la borne dispose de deux leviers représentant des pompes, un pour positionner le serveur sur l'un des quatre comptoirs et l'autre pour verser la bière dans les verres. Une fois rempli, le levier doit être relâché afin de faire glisser la chopine sur le comptoir à destination des clients. Si jamais un client n'est pas là pour attraper sa consommation ou si celui-ci réussit à se rendre jusqu'au bout du comptoir sans avoir été servi, le joueur perdra l'une de ses trois vies. De même, si vous laissez échapper un verre vide, renvoyé par les clients. Il est aussi possible de ramasser des pourboires sur les comptoirs. Une fois récupéré, un spectacle de danse démarrera, durant lequel les clients cesseront d'avancer, permettant ainsi au serveur d'avoir quelques moments de répit. Il y a en tout 4 bars différents à visiter, et après avoir complété tous les services, une ronde bonus vous est proposée, consistant à localiser la canette qui n'aura pas été secouée par le farceur. Cette épreuve est un peu dans le même genre que le bonto. Conçue à la base pour être jouée dans les bars, la borne fut estampillée avec la célèbre marque Budweiser, mais dans le but de développer sa distribution et d'être placée à des endroits pour tous les âges, elle fut modifiée pour afficher cette fois-ci une boisson non alcoolisée, la Root Beer, ou racinette en français. Une boisson au goût épicé, sur fond d'anis, de réglisse, un soupçon de mélasse et de caramel. À noter qu'il s'agit aussi de l'un des tout premiers jeux vidéo affichant une marque de boisson alcoolisée. Nous voici devant un hit, une légende du shoot'em up. Et oui, Darius 2 est la référence des rétro-gamers pour les shoots horizontaux. Et là, on peut dire que l'on ne peut pas faire plus horizontal que Darius, avec ses deux versions en mode 2 écrans et même une version 3 écrans. Si, si. D'ailleurs, ceux qui ont pu jouer à l'époque sur la borne 3 écrans savent avec précision de quel jeu magnifique qu'est Darius 2. Alors vous allez me dire, pourquoi ne pas parler de Darius 1 ? J'aime votre curiosité, mais nous avons préféré de parler de celui qui nous a le plus marqué à l'époque. Et qui sait, peut-être reparlerons-nous de la saga Darius dans un prochain Rétrovision. Enfin bref, tout d'abord, vous devez savoir que toute la ménagerie de monstres et de boss sont tirés du monde aquatique. Ce qui donne à Darius 2 une atmosphère tout particulière pour un shooter. Bien entendu, vous aurez à affronter au bout de chaque niveau un boss. Et comme dans tout shoot qui se respecte, vous pourrez accroître les capacités de votre vaisseau et aussi les tirs. Jusque-là, vous me direz, mais en quoi ce jeu est une légende ? Eh bien, ne soyez pas impatient, j'y arrive. À la fin de chaque niveau, vous aurez la possibilité de choisir entre deux embranchements, ce qui donne une pléthore de niveaux à découvrir et à redécouvrir, même après avoir fini le jeu, pour peu que l'on y arrive. Darius 2 s'en retrouve donc immense, et si vous ajoutez la dimension du triple écran, on se retrouve en face d'un jeu démesuré dans son gameplay comme dans son affichage. Mais avant toute chose, qu'est-ce que Darius ? Eh bien, c'est le nom d'une planète colonisée par des Terriens. Les responsables de cette planète ont reçu un signal provenant de la Terre où se retrouvaient des rescapés. Les Dariusiens, si on peut les appeler comme ça, sont inquiets, car ils soupçonnent un piège de leurs ennemis de toujours, la Belzer Army. De ce fait, ils envoient en reconnaissance deux vaisseaux, car oui, on peut y jouer à deux, donc l'histoire mentionne les deux héros. Graphiquement, le jeu est très soigné, et l'on peut admirer à certains moments de très belles animations, que cela soit pour les boss comme pour les décors. Les musiques sont tout bonnement superbes et ne vous prendront pas la tête. Les bruitages sont dans le pur style des shoots Shinji Taito, du tout bon en résumé. Le vaisseau quant à lui se manie très aisément, et vous n'aurez aucune difficulté à traverser tout l'univers en pourfendant les méchants. Darius 2 est donc une réussite totale, ce qui lui a valu d'être porté sur différents formats tels que la Mega Drive, Game Boy, PC Engine, Saturn et plus récemment sur la console virtuelle Wii. Si vous êtes un fan de shooter et que vous voulez relever un véritable défi rétro, je vous le conseille fortement, il n'a absolument pas pris une ride. Et si vous avez la possibilité d'y jouer en version arcade multiscreen, je vous envie d'avance. Et avec tout ça, je vous souhaite bonne chance dans votre mission, car il va vous en falloir.
Presented by Bon Presto.
Blows your socks off.
Air Garlet est un shoot'em up vertical comme il y en avait beaucoup dans la seconde moitié des années 1990. Ce titre, développé par le studio Gazelle et édité par Bon Presto, ne propose pas de réel scénario. Le joueur contrôle un avion de chasse et traversera le monde à travers 6 niveaux, volant notamment au Japon avec un combat de boss au-dessus de la tour de Tokyo, ou en Bavière avec un survol du château de Neuschwanstein. Pour se défaire de cette nuée d'ennemis qui vous foncera dessus sans vergogne, vous aurez l'habituelle panoplie d'armes et de bombes que vous récupérerez soit en détruisant vos adversaires, soit en tirant sur les containers à bonus au sol. Parlant de bonus, certains d'entre eux, présents uniquement pour augmenter votre score, seront à récupérer en fonction de leur état. Passant de doré à gris, ceux-ci vous donneront plus ou moins de points. Prenez-les donc au bon moment pour augmenter drastiquement votre score. D'ailleurs, récupérer tous les bonus d'un même niveau vous octroiera un super bonus non négligeable. Chaque fin de stage se clôturera avec l'habituelle confrontation contre un boss énorme et balançant des salves de tir qui vous obligera à un exercice de slalom improvisé mettant votre poignet à rude épreuve. L'année 1996 fut riche en shoot'em up verticaux, avec des titres prestigieux comme 90XX War Against Destiny, Battle Garega, Raiden Fighters ou Restorm. Difficile dans ce cas de pouvoir faire face. Pourtant, Air Galet s'en sort honorablement. Graphiquement, le jeu ne propose pas de prouesse. Néanmoins, on remarquera le travail effectué sur les décors qui sont finement détaillés, ainsi que sur certains effets visuels comme l'animation de la tour de Tokyo évoquée en début de chronique ou le reflet sur l'eau pendant le combat contre le boss du cinquième stage. Les musiques sont quant à elles assez anecdotiques dans leur composition. De plus, noyées dans le flot de bruitages de tirs et d'explosions, on n'y prête guère attention. La maniabilité du jeu est bonne, avec la possibilité de tirer en continu en restant appuyé sur le bouton plutôt que de mitrailler les touches comme un forcené. Air Galet est donc un shoot de bonne facture, à la difficulté assez corsée. Toutefois, son manque cruel d'originalité et sa réalisation qui ne lui permet pas de s'élever au-dessus de la concurrence en font un titre certes plaisant à jouer, mais vers lequel les aficionados ne se tourneront pas forcément. On arrive tranquillement vers la fin de cette émission spéciale arcade, en espérant que vous avez passé un bon moment. On se donne donc rendez-vous dans un mois avec le début de la 9e saison. À très bientôt sur Rétrovision. We'll be right back.